Bonjour, bienvenue sur J'enrage, votre émission féministe lilloise. Nous sommes sur RCV 99FM et aujourd'hui je suis en compagnie de Anaëlle.
Salut.
Césab. Et nous allons faire notre 21e émission. Alors au programme du jour,
nous allons commencer par l'agenda que Zab va vous présenter d'ici peu. Nous reviendrons ensuite sur l'avortement, la loi contre l'avortement en Espagne, et on va faire un parallèle un peu plus large avec les autres pays d'Europe concernant l'avortement. Et on reviendra aussi en deuxième partie d'émission, ou en troisième partie si on compte l'agenda comme une première partie, sur l'actualité nationale, on va dire ça comme ça, en gros les projets phares de 2014 du ministère des Droits des Femmes.
Voilà, alors pour commencer tout de suite, l'agenda du mois de janvier 2014. Alors pour ce mardi 15 et mercredi 15 janvier, un spectacle qui s'appelle Adichat, adieu, qui est un spectacle de Jonathan Capdeville, performeur marionnettiste, qui sera présenté sous forme d'autoportrait chanté et qui fait de la question du genre, de la quête de l'identité et du devenir artiste le cœur de son récit. Ce sera au Théâtre d'Arras, place du Théâtre, à Arras, à 20h. Donc ce sera mardi 14 et mercredi 15 janvier, Adichat, adieu. Vendredi 17 janvier, à partir de 18h, il y a l'apéro des bouquineuses chez Violette, 17 rue Van Honacker, à Lille-Moulin, et ils ont d'autres activités. Je vous encourage à aller voir sur leur site un peu tout ce qu'ils font. Toutes les semaines, il y a quelque chose. Le samedi 18 janvier, nous reviendrons là-dessus juste après, un rassemblement est organisé place de l'Opéra à 14h30, je ne sais plus, à l'Opéra, donc à Lille, à l'initiative du planning familial de Lille et en solidarité avec les femmes espagnoles et pour la défense du droit à l'avortement en Espagne et en Europe. Donc ce sera à 14h ou 14h30, je ne sais plus, place de l'Opéra, ce samedi 18 janvier.
Je crois que c'est 14h30.
Voilà, et nous reviendrons sur cette question juste après. Toujours ce samedi 18 janvier, à 17h, un atelier de lecture autour de Monique Wittig qui est organisé également chez Violette, toujours 17 rue Van Honacker, place pardon, Van Honacker. Dimanche 20 janvier, donc c'est dimanche prochain, premièrement nous aurons une autre émission au lieu de la faire toutes les quinzaines comme d'habitude. Donc au lieu du dimanche 26 janvier, ce sera lundi 20 janvier et dimanche 19 janvier.
Oui, c'est ça.
Pardon, donc dimanche 19 janvier, on aura une deuxième émission de Jean Rave et celle du 26 janvier sera annulée. Et lundi 20 janvier, il y aura le vernissage de l'exposition Take Back the Night avec une performance à l'espace culture de Lille 1 qui se trouve à Cité Scientifique. Alors cette expo s'inscrit dans la continuité, il me semble, de la journée d'études Sortir la nuit, rapports sociaux de sexe, perception et usage nocturne des espaces publics qui avait eu lieu le 26 novembre et donc concerne les vécus de femmes et les représentations des femmes et que les femmes ont dans l'espace public la nuit. Et ces journées d'études et cette exposition, je crois bien, invitent à la réappropriation de cet espace. Donc ce sera lundi 20 janvier à l'espace culture de Lille 1. À je ne sais plus quelle heure, 19h ou 20h je pense. Mardi 28 janvier, vous allez devoir choisir entre la projection de L'Arbre et le Nid, quatrième et dernière projection du cycle de projection débat Un enfant si je veux, quand je veux, comme je veux, qui concerne cette fois-ci l'encadrement étatique, sanitaire et médical des accouchements, l'industrialisation des naissances, et en miroir la réappropriation des savoirs et démédicalisation des naissances. Voilà, donc la projection de L'Arbre et le Nid, ce sera à 19h30 au cinéma L'Univers, 16 rue Danton, à Lille-Moulin. Et à la fois ce même jour, la soirée d'ouverture du festival Jeux de genre, qui se déroulera du 28 janvier au 22 février, à la fois et surtout au Théâtre Massenet, mais aussi à la Maison Folie d'Oisem ou encore au cinéma L'Univers, et dont on parlera un peu plus en détail la prochaine fois, je crois, parce qu'il se déroule surtout sur le mois de février. Donc pour cette soirée d'ouverture, 4 performances artistiques qui questionnent les genres, les représentations du féminisme, etc. Ce sera à 20h30 au Théâtre Massenet, mardi 28 janvier. Et enfin, vendredi 31 janvier, et ça alors qu'il n'y a que 2 semaines, hein, mais bon. Génération con, elles vécurent heureuses et eurent beaucoup d'amants et amantes, de Pauline Brotte et Émilie Combé, pardon, qui est un autre spectacle du festival Jeux de genre, et qui entremêle l'histoire de femmes, ce sera à 20h30 au Théâtre Massenet également. Voilà, donc tout de suite, on vous met une petite musique et puis on revient pour parler de la loi d'avortement, enfin de restriction de l'accès à l'avortement en Espagne. Alors tout de suite, je vais vous mettre Didi Samson and Men, un groupe qui existe depuis 2007, dont on vous a déjà mis une chanson, je pense,
ouais.
Et qui se compose de Didi Samson, comme son nom l'indique, mais également de Joanna Faithman, qui étaient toutes les deux membres du groupe phare Le Tigre, et qui, en octobre 2013, donc il y a quelques mois seulement, ont sorti un nouvel opus intitulé Labor. Et la chanson qu'on vous met aujourd'hui s'intitule All the Way Through. Voilà, nous sommes de retour sur RCV, c'était DJ Samson and Men, All the Way Through. Alors tout de suite, on va revenir sur ce dont on a parlé juste avant, l'avortement. Alors il y a une manifestation ou une mobilisation, je ne sais pas comment appeler ça, samedi prochain, comme on l'a dit, qui est organisée par le planning familial à 14h30 devant l'Opéra. en solidarité avec les femmes espagnoles et contre le recul
des droits des femmes en Espagne concernant l'avortement.
Et en Europe de manière générale. Alors pourquoi cette mobilisation ? Je ne sais pas si vous avez un peu regardé ce qui se passe en Espagne, mais en gros, une des promesses de campagne de Mariano Rajoy, qui est président actuellement, donc promesse qui date de 2011, était justement de restreindre ou d'interdire, en tout cas restreindre très fortement l'accès à l'avortement. Et l'exécutif, le pouvoir exécutif espagnol a adopté vendredi 20 décembre un projet de loi limitant fortement justement l'avortement et annulant la loi de 2010 qui autorise l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse et jusqu'à 22 semaines en cas de malformation du fœtus. Donc pour pas mal d'associations de défense des droits des femmes et de l'accès aux soins, cette décision équivaut à un retour en arrière de 30 ans. Donc 30 ans, c'est pas exactement ça, mais en gros, Franco, c'était jusqu'en 1975. Donc là, l'Espagne revient à une législation datant de 1985. C'est en gros juste après qu'ils ont changé et qu'ils avaient adopté une législation beaucoup plus souple, qui était une des plus souples d'Europe.
Ouais,
d'ailleurs.
C'est ce que j'allais dire, qui était une des plus souples d'Europe. Ouais, l'Espagne, malgré le fait que ce soit un pays fortement catholique encore, enfin, ils avaient une législation hyper souple et effectivement, c'est un retour en arrière assez conséquent.
Voilà, exactement. Et du coup, si le nouveau texte est approuvé par le Parlement, ce qui n'est pas encore dit, mais vu que le Parti Populaire, donc qui est au pouvoir actuellement, détient la majorité absolue, ce sera approuvé. L'avortement ne sera plus un droit et ne sera autorisé qu'à deux conditions. La première, en raison d'un grave danger pour la vie ou la santé physique ou psychologique de la femme, et le deuxième, que la grossesse soit une conséquence d'un délit contre la liberté ou l'intégrité sexuelle de la femme, c'est-à-dire le viol. Et pour satisfaire à cette dernière condition, la femme devra avoir précédemment déposé plainte pour viol.
Ouais.
Or, on sait bien que tous les délits de viol ne sont pas...
Ils sont rarement même, il y a rarement des plaintes déposées pour viol.
Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une grosse restriction. Et du coup, par exemple, pour invoquer la malformation du fœtus comme motif de l'IVG, il faudra un rapport de deux médecins. Et hormis ces deux raisons, il sera plus possible d'avorter. Et en plus encore, le texte réintroduit l'obligation pour les mineurs âgés de 16 à 17 ans d'avoir une autorisation parentale, alors que pour l'instant, les parents devaient simplement être informés. Donc, c'est une grosse restriction. La loi de 2010 qui avait été... instituée par Zapatero, qui était donc une des mesures phares les plus du gouvernement socialiste et qui plaçait l'Espagne des pays les plus libéraux en matière de droit à l'avortement, permettait d'avorter jusqu'à la 14e semaine de grossesse sans justification,
ouais.
Et jusqu'à la 22e en cas d'anomalie du fœtus, et moyennant l'approbation de deux médecins, bien évidemment. Donc cette manifestation, elle est là pour soutenir les femmes espagnoles et toutes les associations qui essaient de faire en sorte que cette loi ne passe pas et qui très malheureusement passera certainement. Et plus rien à voir là par contre avec l'avortement, mais toujours qui a toujours associé avec le gouvernement de Rajoy. Ils sont en train de nous passer une nouvelle loi. Je veux absolument parler parce que ça me semble hyper important. Qu'ils essaient de passer depuis donc décembre 2013, c'est la Ley de Seguridad Ciudadana, donc les lois de sécurité citoyenne, pardon, là, je trouvais plus le mot, qui en gros est la nouvelle arme du PP, donc le Parti Populaire, pour intimider tous ceux qui pratiquent la désobéissance civile et tout simplement quiconque décide de ne pas se conformer aux nouvelles mesures politiques du gouvernement et le fait savoir, c'est-à-dire n'importe quelle manifestation. C'est une criminalisation de n'importe quel manifestant. C'est une loi tout à fait anti-manif, puisque l'interdiction des manifestations non déclarées s'appliquera également aux réseaux sociaux, par exemple, donc c'est complètement dingue. Donc se rassembler en tant que groupe sur Internet autour d'une opinion sera sanctionné de 30 000 euros.
Ils ont été traumatisés par les indignés.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est une loi anti-M15, quoi. Créer un groupe sur les réseaux sociaux dans un lieu public autour des symboles ou du drapeau sera interdit également, 30 000 euros d'amende. Si dans une manifestation, un citoyen manifeste avec une capuche ou le visage couvert, 30 000 euros d'amende. Empêcher un policier de remplir sa fonction, 30 000 euros, ce qui dans la pratique signifie que les sit-ins, par exemple, comme ceux qui ont été faits pendant le mouvement du 15M en Espagne, ils seront interdits parce que c'est l'obstruction
à la République.
Voilà, c'est ça. Utiliser des pancartes critiquant la nation espagnole, 30 000 euros d'amende. Réaliser un dessin satirique prenant pour sujet un politique, interdit.
Il s'appelle le Parti Populaire, c'est assez rigolo.
Oui, bon, c'est un parti hyper conservateur et catholique. Et en même temps, au mois de décembre, le journal El País a publié un article sur une récente acquisition des services de police qui n'utilisait plus depuis près de 20 ans des canons à eau et maintenant ont acheté un nouveau camion pour pouvoir arroser les manifestants qui troublent l'ordre public. Donc voilà, juste une aparté sur ça pour dire que...
Le retour en arrière se fait pas que sur l'avortement, quoi.
Voilà, exactement. Il y a, c'est une restriction de l'avortement, une restriction des droits de manifester et d'exprimer ses idées, son opinion, quand c'est à l'encontre du gouvernement, bien sûr. On s'attend peut-être, pourquoi pas, à une loi qui limitera la liberté de la presse, qui sait. Bon, sinon, pour revenir à l'avortement, toujours dans l'actualité, en Suisse, alors ça s'est pas su des masses, du coup, je voulais en parler aussi aujourd'hui, il y a une initiative populaire qui s'est développée en 2010, qui s'appelle « Le financement de l'avortement est une affaire privée », qui est composée de militants anti-choix et de parlementaires, et en gros, ils demandent la radiation de la prise en charge des coûts de l'avortement, par l'assurance maladie, sous réserve de rares exceptions. Donc, ils disent pas exactement ce que c'est, ces rares exceptions. Mais en gros, une votation doit avoir lieu début février pour réviser la loi de 1981 qui a institué le remboursement de l'avortement. Et les initiateurs de cette révision présentent cette nouvelle loi comme une économie pour la sécurité sociale, tandis que les associations féministes suisses ont fait le pari de montrer que c'est un mensonge. Un, parce que l'IVG médicamenteuse ou même par intervention ne coûte pas très cher. Et en tous les cas, coûte moins cher qu'un accouchement, ce qui est quand même le comble. Donc en gros, s'ils suivent la logique rhétorique du comité financement de l'avortement est une affaire privée, l'accouchement qui n'est pas une maladie, parce que c'est ça au départ leur argument, c'est que la grossesse n'est pas une maladie, donc elle ne devrait pas être prise en charge par la sécurité sociale. Donc l'accouchement n'est pas une maladie et ne devrait pas être remboursé non plus. Mais bon, comme là c'est anti-IVG et pro-vie, voilà. Par ailleurs, le traitement des complications dues à un IVG fait maison, entre guillemets, qui sera pratiqué non pas par des spécialistes, sera plus élevé que l'intervention en soi de l'IVG. Et enfin, un enfant coûte plus cher à élever, même pour la sécu seulement, qu'en réalité pratiquer un IVG. Donc ça n'a aucun sens en réalité, leurs arguments. Et c'est juste un argumentaire ultra-conservateur et catholique, encore une fois. Et puis, en quelques minutes, là, revenir sur Chypre, Malte et la Pologne et aussi l'Irlande, dans ces pays, donc c'est un crime d'avorter toujours, plus ou moins. Donc, en Pologne, par exemple, toujours là d'actualité, en septembre 2013, il y a eu la première lecture d'un projet de loi qui visait à interdire l'IVG en cas de maladie grave ou risque pour les fœtus. Et heureusement, elle a été rejetée pour l'instant, mais du coup, ils sont en train de travailler là-dessus. Parce que, en gros, le gouvernement actuel est pour le statu quo, c'est-à-dire la loi de 1933 qui interdit l'avortement sauf lorsque la grossesse menace la santé de la femme, en cas de viol et inceste ou en cas de malformation du fœtus. Mais déjà, la loi est une des lois les plus restrictives d'Europe, mais ils essaient encore de restreindre cet accès à l'avortement. Et de faire en sorte que seules les personnes, les femmes victimes de viol et d'inceste ou qui encourent de graves dangers à cause de leur grossesse puissent avoir recours à l'IVG. Donc les anti-choix en Pologne qualifient l'IVG en cas de malformation de fœtus d'avortement eugénique, c'est-à-dire comment expliquer ça ?
Ouais, c'est de garder que des enfants en bonne santé et l'eugénisme un peu.
Exactement. Et du coup, ils en appellent à la conscience catholique des Polonais pour ne pas pratiquer l'IVG et lutter contre ces pratiques-là. Et pour autant, c'est une loi qui est quand même, enfin c'est une loi qui n'interdit pas qui autorise l'IVG en cas de viol et inceste. Et en 2008, une fille de 14 ans a été violée. Elle essayait d'avorter dans un hôpital de sa ville natale qui s'appelle Lublin, et on lui a refusé ce droit pour des raisons religieuses, donc clause de conscience. Et du coup, cette jeune fille et sa mère avaient saisi les organisations féministes et le planning familial de Pologne, qui lui avait indiqué une clinique à Varsovie. Et les anti-IVG, journalistes de la Radio Maria et des prêtres ont réussi à violer le secret médical, à harceler la jeune fille, qui a finalement été placée en centre de mineurs sans avoir le droit d'avorter en plus. Parce qu'en gros, on a soupçonné sa mère de pousser sa fille à l'avortement et on lui a retiré la garde. Donc c'est un truc de fou furieux.
Alors que la gamine est victime de viol au départ.
Voilà. Tout ça pour dire que les pouvoirs de la société civile et religieuse anti-choix sont extrêmement puissants en Pologne. Et du coup, même si le gouvernement est pour le statu quo en ce moment, le prochain gouvernement verra certainement dans cette direction. Donc on va se retrouver dans le même cas que l'Espagne d'ici quelques temps, je pense. Pareil, en Irlande, l'IVG est plus ou moins interdit. La seule raison valable pour la pratiquer était que la vie de la femme soit gravement menacée. Pour autant, l'Irlande n'a pratiqué officiellement en 2009 aucune IVG. Donc si on regarde les données sur le site, il n'y a vraiment aucune IVG qui a été pratiquée, c'est quand même fou. Donc l'IVG est un gros 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 tabou en Irlande toujours. En parler en public est polémique. Par contre, en 2012, il y a eu une autre affaire aussi du même type que celle de Pologne. Une dentiste de 31 ans qui s'appelait Savita, qui est morte de septicémie 3 jours après avoir été admise aux urgences de Galway, parce qu'en gros les médecins ont refusé de procéder à un avortement thérapeutique, qui est pourtant légal, tant que le cœur du fœtus battait encore. Donc en gros, elle est morte parce qu'ils n'ont pas voulu procéder à un avortement, alors que dans la loi, il est bien inscrit que en cas de danger pour la future mère ou non mère dans le cas de l'avortement, l'avortement est praticable théoriquement. Du coup, les agences féministes et du coup, en gros, ce qui se passe en Irlande, c'est qu'il y a des assos féministes et des agences qui sont agréées, qui ont des fonds publics et qui redirigent toutes les Irlandaises qui souhaitent avorter légalement dans des établissements britanniques, vu que c'est juste à côté. Donc il est légal d'avorter dans un autre pays, parce qu'en fait il est illégal de pas permettre à quelqu'un d'aller dans un autre pays pour avorter, mais eux ils sont quand même, ils restent sur leur position ultra conservatrice. Ça arrange les autorités au final, parce qu'en réalité ils doivent pas remettre en question la situation sociale et médicale actuelle qui met des femmes en danger et qui est la conséquence d'un conservatisme religieux hyper prégnant, et ils sont pas obligés de remettre ça
en cause,
voilà. Par contre, une nouvelle loi a été votée en 2013, Protection of Life During Pregnancy, donc protection de la vie pendant la grossesse. Et là, ça inclut le suicide potentiel de la femme comme menace à sa santé, et donc comme raison valable pour pratiquer l'avortement. Ça veut dire que quand même que l'avortement n'est pas légal, même en cas de viol, par exemple. Mais donc ça veut dire que l'avortement est quand même à moitié interdit, quoi, mais c'est toujours ça de mieux, quoi.
Ouais, il est plus ou moins toléré si la femme menace de se suicider, en gros.
Voilà, en gros. Et je sais pas après comment tu prouves que tu veux te suicider si on te laisse pas avorter, quoi, mais bon. Et pareil, très rapidement, Malte et Chypre, l'IVG est plus ou moins totalement interdit, quoi. Donc voilà, c'est quand même pas mal de pays près de chez nous où l'avortement est encore trop interdit. Et je pense que cette manifestation qui aura lieu samedi prochain, il faut que ça aussi aille dans cette direction, dans ce soutien. Après, on peut pas obliger les gens à légaliser l'avortement, mais pour des gouvernements comme en Espagne où c'est pas la population qui est contre l'avortement, parce que des référendums ont montré que la population était pour l'avortement, mais c'est bien le gouvernement qui pète un gros câble et qui est revenu 30 ans en dernier et qui se fascise avec les années qui passent. Voilà.
Ouais, carrément.
Donc voilà, ça c'était pour l'avortement.
Avant de mettre une autre petite chanson et pour terminer sur une note un peu plus positive, on va parler de la France. Parce que là, pour le coup, alors ce ne sont pas des projets de loi pour l'instant, ce sont des recommandations qui ont été édicté dans un rapport qui date de 2013, donc qui est en ligne sur le site du gouvernement, donc du ministère des droits des femmes. Et je vais juste revenir sur les trois premières recommandations du dossier qui est téléchargeable, donc sur le site du ministère, et qui replace le droit à l'avortement comme, enfin le droit à disposer de son corps, comme étant un droit et qui va en faire un droit à part entière. Et donc en fait, les trois premières recommandations juridiques liées à l'IVG demandent premièrement de remplacer la mention Donc, dans le texte de loi, la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse, pardon. Donc, remplacer cette mention-là par la femme qui ne souhaite pas poursuivre sa grossesse peut demander à un ou une médecin de l'interrompre. Alors, le fait de mentionner un ou une médecin aura son importance quand on reviendra tout à l'heure sur les projets de loi, pardon, 2014 du ministère des Droits des Femmes par rapport à la mixité, de l'accès à l'emploi, etc. Le deuxième texte juridique que ce rapport demande de revoir, c'est de supprimer l'obligation du délai de réflexion de 7 jours entre les deux consultations. Donc en gros, de faciliter les femmes à l'accès à l'avortement et pas de réfléchir, supprimer l'obligation de délai. Et la troisième mention, c'est aussi de supprimer la mention explicite de la clause de conscience des médecins et du personnel de santé, parce qu'en fait, elle est déjà accordée implicitement à tout le personnel soignant pour l'ensemble des actes médicaux. Donc le fait de le signifier explicitement par rapport à l'avortement freine un peu l'accès à l'avortement des femmes.
Ouais, ou en tout cas, on répète ce qu'on a déjà dit et qui est déjà dit de manière implicite pour les autres actes. C'est finalement pathologiser d'autant plus la pratique de l'IVG, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc, c'est juste juridique. Après, il y en a 34 autres des recommandations qui sont pas uniquement juridiques, mais qui portent aussi sur, l'objectif principal de ce dossier et de ces recommandations, c'est vraiment de favoriser et de simplifier l'accès des femmes à l'IVG. Voilà.
Bon ben, on passe tout de suite, on vous met une petite chanson et puis on revient à l'actualité nationale avec Anaëlle juste après. Cette fois-ci, on vous met Coco Rosie, un groupe dont on a déjà passé au moins de chansons, peut-être même plus. Donc composé des sœurs, Bianca et Sierra Cassidy. Elles ont sorti un nouvel album, Tales of a Grass Widow, donc littéralement un conte d'une veuve, qui est sorti en 2013. En mai, il me semble, conte d'une veuve. Hein. Grass Widow, ça n'a rien à voir avec l'herbe. Par contre, ça désigne vraiment la veuve. Donc, soit la maîtresse abandonnée, la femme qui vit séparée de son mari. C'est pas seulement une veuve qui a perdu son mari parce qu'il est mort, quoi. Enfin, bref. Et on vous met Villain comme chanson. Voilà. À tout de suite. Bon, ben, petit problème technique. Du coup, je vais vous remettre celle d'avant parce que... Oh non, je vais vous mettre une autre qu'on a déjà passée. Devil Gate Drive de Suzy Quattro, à tout de suite. Hey y'all, wanna go down to Devil Gate Drive? Yeah! We'll kill them all! Welcome to the dive. One, two, three. Yeah.
Voilà, nous sommes de retour donc sur Jean Rage, il est 16h40 presque, donc on est toujours sur RCV 99FM, on est le 12 janvier, désolée pour ce petit problème technique de chanson. Moi je vais revenir rapidement sur les projets de loi ou disons l'actualité du ministère des droits des femmes pour 2014. En revenant rapidement donc sur un bilan 2013, alors je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a pas mal de critiques de plusieurs associations féministes concernant ce qui a été fait en 2013 pour les droits des femmes. Parce qu'il y a eu des choses de fait, et effectivement, pour le recul des inégalités, etc., mais il y a encore des grosses questions qui n'ont pas été traitées. Pour pallier à ça, on va parler un peu de 2014 et le bilan, ce qui est proposé pour 2014 n'est pas super réjouissant non plus, parce que ce qui est proposé concerne uniquement l'emploi. Donc en gros, les trois priorités pour 2014, alors sur le site du ministère, il est marqué les trois nouvelles priorités, en sachant qu'en fait, ce sont des priorités qui sont en place depuis 2012, donc en fait depuis la création du ministère des droits des femmes et de l'arrivée de François Hollande au gouvernement. Donc ces trois nouvelles priorités concernent premièrement l'annulation de l'écart du taux d'emploi des femmes et des hommes d'ici 2025. Donc en plus c'est évidemment que c'est sur le long terme, on peut pas faire ça de manière rapide, mais plein de réformes, si le Parti Socialiste est plus au gouvernement, il y a plein de réformes qui peuvent revenir dessus. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut réduire l'écart d'emploi entre les hommes et les femmes. Favoriser la mixité des métiers, donc faire passer plus de femmes dans les métiers dits masculins et faire passer plus d'hommes dans les métiers dits féminins, et accélérer la mise en œuvre de l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Donc la parité des hommes et des femmes au gouvernement, mais aussi au Sénat, à l'Assemblée, favoriser l'accès à des femmes mères, ce genre de choses. Alors évidemment, il y a pas mal de choses après, plutôt sociales, qui sont mises en place, par exemple favoriser le congé paternité, etc. Mais tout ça peut être vraiment vu comme lié à l'emploi. Et pourquoi l'emploi ? Parce que favoriser l'emploi des femmes permet l'accroissement de la croissance économique en France. Donc, je ne vais pas trop vous parler de chiffres parce que c'est hyper technique, mais voilà, en gros...
Et chiant.
Et chiant, oui, aussi. Alors, la France n'est pas toute seule là-dessus. Elle s'inscrit dans un programme d'augmentation de la croissance et de réduction de l'inégalité homme-femme qui est européenne, voire internationale, parce que l'OCDE milite pour ça, etc. C'est un des 5 objectifs principaux de l'OCDE de favoriser l'égalité homme-femme dans l'accès à l'emploi, etc. Donc par exemple, dans ces mesures mises en place, alors ça va être le gouvernement est relativement actif là-dessus, en plus le ministère des droits des femmes va travailler avec différents ministères forcément, parce que le ministère des droits des femmes peut pas tout seul mettre les femmes sur le marché de l'emploi. Donc il y a un tableau de bord qui a été adopté, un tableau de bord interministériel pour l'égalité, donc qui montre vraiment que le ministère des droits des femmes travaille essentiellement d'ailleurs avec le ministère de la culture et de la communication, le ministère de l'éducation, le ministère de l'économie et des finances, enfin bref, pour vraiment favoriser ces écarts-là. Donc il y a un sommet mondial des femmes qui a eu lieu en juin 2013 pour promouvoir la participation des femmes à l'activité économique et le leadership féminin. Pour l'annulation de l'écart du taux d'emploi entre des femmes et des hommes d'ici 2025, il y a 4 réformes phares qui ont été adoptées ou qui vont être adoptées. Donc le plan de développement des services d'accueil de la petite enfance pour que les femmes puissent reprendre le travail plus tôt et pour que leurs enfants soient placés en crèche ou en assistante maternelle. Le réforme du congé parental, donc favoriser le congé paternité, ce genre de choses. La réforme des retraites pour que le temps de cotisation soit moindre, etc. On en a assez parlé et assez entendu parler de la réforme des retraites. Et la remise à plat de la fiscalité. donc favoriser l'augmentation du niveau d'emploi des femmes, alors d'où le fait que ça passe aussi par le travail avec le ministère de l'Éducation, parce que un des points principaux aussi, c'est de réduire les stéréotypes des métiers plutôt féminins et plutôt masculins, etc. Donc ça passe évidemment par la...
Un travail de représentation.
Ouais, un travail de représentation des...
Et d'orientation, parce que c'est vrai que l'orientation à l'école est encore très... suit encore des représentations de genre assez fortes.
Ouais, c'est ça, ça passe par un travail sur le genre, par un travail de déconstruction des stéréotypes et des métiers genrés, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Quand on voit, par exemple, sur le ministère même, il est marqué assistante maternelle. Combien d'hommes sont assistants maternels ? Effectivement, le terme même est féminin. Donc, ça touche pas mal de choses auxquelles on pense pas forcément, mais... voilà. Et... par rapport à la mixité des métiers aussi...
Enfin, oui. Juste un mot dessus. Après, moi, en soi, ça sert à rien qu'il y ait plus d'hommes ou plus de femmes dans une branche, tu vois. Enfin, ça, je trouve qu'en soi, ça sert pas... Enfin, si, c'est pas que ça sert ou que ça sert pas, c'est pas la question. Mais le problème de ces métiers qui sont soit très masculins au niveau du nombre, au niveau statistique de présence, hein, je veux dire, ou très féminins, je pense que le problème, c'est plutôt ce que ça entraîne au niveau des représentations, effectivement.
Ouais.
Assistante maternelle, je pense que par pas mal de personnes, c'est un métier, c'est un sous-métier déjà pour commencer, et c'est considéré comme un faux métier, c'est pour s'amuser, quoi. Tu vas là, tu t'amuses avec des gosses, et puis c'est bon, quoi.
Ouais, tu joues à la nounou.
Voilà.
Ouais.
Ou c'est un métier de femme typique, et ça réassigne les femmes au genre féminin, et ça s'inscrit aussi dans toute cette dynamique et tous ces mouvements de... y a des métiers typiquement féminins et des métiers typiquement masculins, et ça pose problème parce que ça restreint l'accès de ces métiers-là à l'autre genre ou sexe, par exemple, mais plutôt parce que ça induit que y a des valeurs spécifiquement féminines, et du coup que les femmes sont faites pour un certain type d'emploi et vice-versa.
Mais en fait, ça touche les deux côtés, parce que le fait qu'il y ait... non seulement c'est une réassignation des genres, et en plus, par exemple, des femmes qui sont au chômage et qui pourraient avoir les compétences ou les qualifications, ou qui pourraient être formées dans des métiers dits plutôt masculins, ne prennent pas le poste et ne font pas la démarche pour, en fait. Parce que justement, dans leur représentation, c'est pas un métier pour elles, c'est pas un métier pour les femmes, et dans la représentation des travailleurs qui peuvent les accueillir, c'est pas un métier pour les femmes non plus.
Ouais.
Enfin, il y a ces deux pendant-là, en fait. Et d'où tout le côté économique aussi, parce que du coup, les femmes restent inactives alors qu'elles pourraient, être chauffeur routier, par exemple.
Ouais.
Et... donc, ce qui est une des mesures, et ce qui en vient aussi à travailler sur les représentations de genre, etc. Donc, justement, pour rebondir là-dessus, le gouvernement voudrait favoriser l'accès des femmes à certains emplois dits typiquement masculins, et l'accès des hommes à certains emplois dits typiquement féminins, parce que ça se fait pas que dans un sens. Non, ce qui permettrait la réduction du chômage et une croissance plus importante. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est le fait que le bon nombre de femmes sont à temps partiel, et donc favoriser les emplois à longue durée, etc. Là aussi, lié à l'économie, alors je voudrais pas dire que le gouvernement est hypocrite et que l'Europe est hypocrite, etc. Mais je pense que ça a quand même un impact relativement important sur ces réformes-là, quoi. Donc voilà, en gros, voilà, on parle pas... Zap, tu voulais dire quelque chose sur la PMA, justement, pour dire que nombre de critiques des féministes ont porté justement sur ce genre de réforme-là, la PMA, la GPA, qui étaient des réformes phares dont on parle absolument pas, la prostitution, il y a eu certains débats parce que avec la loi abolitionniste, mais finalement on n'en parle pas plus que ça. Le gouvernement met quand même un accent sur les violences faites aux femmes, mais il n'y a rien de concret dénoncé. Vraiment, toutes les réformes concrètes qui sont énoncées, les...
Pour 2014.
pour 2014. Et les dossiers statistiques qui sont montés concernent l'emploi, essentiellement.
Et ouais, du coup, ça s'inscrit dans cette politique de redressement de l'économie.
Ouais, c'est ça, en fait.
Ouais, non, mais effectivement. Donc ouais, juste pour revenir sur la PMA, c'est vrai que c'était une promesse électorale du président. Et on en avait parlé lors du passage du projet de loi pour le
mariage.
Ouais, j'arrive plus à parler. Pour le projet de loi autorisant les personnes de même sexe à se marier, finalement, ça avait été abandonné. Et le 3 janvier 2014, lors de ses vœux annuels, Dominique Bertinotti, donc qui est ministre délégué auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, et qui donc elle est chargée de la famille, annonçait que la PMA ne ferait pas non plus partie de la loi famille en préparation, qui concerne plutôt les procédures d'adoption. Donc ça parle de procédures simples et procédures complexes. Je sais pas, enfin j'ai pas lu le pour l'instant exactement là, le
l'article, ouais.
Enfin voilà, exactement. Mais bon, ça concerne tous les couples, hein, de même sexe ou hétérosexuels. Mais effectivement, la PMA est toujours rejetée du projet. Et le projet de PMA est au point mort, alors que le gouvernement avait promis de s'y mettre.
Ouais.
Voilà, donc c'est pour les actualités nationales. Maintenant, pour finir cette émission avec une note un peu plus...
joyeuse,
ouais,
légère.
Joyeuse peut-être, je sais même pas. Pour revenir en Espagne, justement, il n'y a pas que des mauvaises choses qui s'y passent. Il y a le droit à la libre autodétermination du genre et l'obligation de l'administration autonome de respecter cette identité sans rapport d'expert psychologique ou psychiatre, qui a été reconnue en Andalousie. Donc c'est la première communauté autonome d'Espagne à reconnaître ce droit et s'est appuyé par une loi qui s'intitule Ley Integral de Transsexualidad et qui vient renforcer la Ley Estatal de Identidad de Género, qui date de 2007. Et en gros, la loi de 2007 permettait déjà aux personnes trans de changer de nom et de genre, mais sous couvert de rapports de psy, donc psychiatre et psychologique, et en prouvant... Donc c'est des rapports qui devaient prouver un certain trouble au niveau identitaire, et aussi une certaine prise d'hormones, donc c'était au moins 2 ans, donc il fallait prouver ces deux choses-là pour pouvoir changer son état civil. Et grâce à cette nouvelle loi donc de 2013... l'administration autonome, donc d'Andalousie, reconnaît ce droit à la libre autodétermination du genre. Et par ailleurs, il est bien précisé dans cette loi que ce changement et que l'identité trans n'est pas une pathologie. Donc je vous mettrai en lien l'article. C'est un article de El País, encore une fois. Et puis un autre petit truc aussi, une vidéo que j'ai trouvée sur Internet qui m'a semblé assez bien, que je vais vous mettre en direct du studio de RCV sur la page Facebook. Donc c'est un clip qui s'appelle Somewhere in America, Mipsters. Alors Mipsters, qu'est-ce que c'est? C'est la fusion de muslim, donc musulman, et de hipster. La vidéo est faite sur fond de Jay-Z. Bon, ça on s'en fout un peu. Mais en gros, à Jean Rage, c'est vrai qu'on aime bien tout ce qui est production de nouvelles représentations
féminines ou
voilà.
Féministes.
Et là, donc dans ce clip-là, en gros, on voit des filles qui portent le voile et qui sont habillées en hipster et qui font du skate et des trucs cool. Donc c'est entre eux, normalisation du port du voile, puisque ça marque l'émergence d'un nouveau style, mipsters, qui serait à la fois hipster et musulman, port du voile, quoi. Et puis, c'est aussi la réhabilitation d'un stigmate. En tout cas, en France, aux États-Unis, c'est vrai que c'est beaucoup moins stigmatisé, le port du voile. Mais comme en France, c'est très stigmatisé, on partage cette petite vidéo avec vous. Je suis en train de le faire là, maintenant, tout de suite. Hop. Et puis, on vous met une dernière chanson et on reviendra tout de suite. On vous parlera de quelques petits trucs encore. À tout de suite. La chanson, c'est « The Knife Pass This On ».
Vous êtes toujours donc sur Genrage. L'émission est bientôt terminée, donc c'était The Knife Pass This On. L'émission est bientôt terminée, alors pour éviter de déborder sur l'émission suivante, pardon, on va pas relancer un sujet féministe là actuellement. Par contre, ce qu'on peut faire pour terminer l'émission en beauté, c'est mettre la chanson qui n'a pas voulu fonctionner tout à l'heure. Donc voilà, Zab, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
Oui, donc on va vous mettre la chanson. Donc c'était Coco Rosie Villain, donc du nouvel album Tales of a Grass Widow. Et juste avant, on va parler d'un dernier truc. Nous sommes en train d'élaborer avec les Flamants Roses un fanzine queer et féministe.
Flamants Roses, association du centre LGBTQIF.
Ouais, voilà, exactement. Et du coup, le premier numéro sortira le 1er mars, si je ne m'abuse.
Je pense que c'est ça, ouais.
Voilà, il y aura une soirée de lancement du fanzine qui aura lieu au centre J'en suis, rue de Condé, 19 rue de Condé, je pense, mais je ne suis pas sûre à 100%. Pas très loin de la place Vanhoenacker. Et du coup, vous y êtes conviés, je vous le dis d'avance. Marquez cette date sur votre petit agenda. Et puis, de toute façon, on vous tiendra au courant. On vous donnera plus d'infos à venir. Encore une fois, je vous invite à venir à la manifestation de la semaine prochaine, donc samedi 18.
Oui, c'est ça.
À 14h30, place de l'Opéra, en solidarité avec... les femmes espagnoles et contre les projets de loi régressifs et qui restreignent l'accès à l'avortement de manière générale dans les pays d'Europe.
J'espère que vous avez bien noté toutes les dates que Zab vous a présentées en début d'émission parce qu'il y a pas mal de choses à faire ces 15 prochains jours.
Voilà, ou si jamais vous n'avez pas tout suivi, on vous partagera sur la page Facebook ou sur le WordPress, il y est directement, le petit agenda qu'on met à jour régulièrement et tout y est. Donc voilà, avec les accès au site et puis au site officiel des événements dont on vous parle et puis les horaires, les prix, etc. Voilà, donc on vous met Coco Rosie Villain et puis on se dit à dans une semaine du coup.
Oui, à dans une semaine,
n'oubliez
bonne
pas.
Fin de journée.
Voilà, à bientôt, merci.
Bonne semaine, salut.
Protector, I'm she.